Alors, nous avons mis en évidence que le premier rôle éducatif des parents, c'est de laisser Jésus être l'éducateur, et donc de mettre les enfants en contact avec le Christ. Ça s'appelle l'éveil à la foi. En parlant de l'éveil à la foi, en même temps, nous sommes déjà dans ce que Benoît XVI appelle la formation du cœur, qui constitue, on pourrait dire, l'éducation fondamentale, qui correspond à ce qu'on pourrait appeler aussi la formation spirituelle, formation à la foi, d'abord, mais aussi à l'espérance et à l'amour. Tel est le roc sur lequel nous devons fonder notre vie, puisque, comme dit le catéchisme, ce sont les vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour, qui fondent, animent et caractérisent l'agir du chrétien. Connaissez tous le « aime et fais ce que tu veux » de saint Augustin, mais ici il s'agit d'éduquer à l'amour véritable, c'est-à-dire que ce soit vraiment cet amour nouveau que Jésus est venu répandre dans nos cœurs qui anime la vie des enfants. On pourrait dire que tout culmine dans la qualité de l'amour, la profondeur de l'amour, mais cette éducation à l'amour est inséparable d'une éducation à la foi et à l'espérance. Les vertus théologales sont inséparables, comme aime le souligner Benoît XVI. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont même pas le sens, de jeunes chrétiens, je veux dire, qui n'ont même pas le sens de la différence entre l'amour qui vient de Dieu, l'amour divin, et puis l'amour humain. Mais précisément, l'amour véritable, l'amour qui vient de Dieu, il suppose toute une vie de foi et d'espérance qui manque le plus souvent pour que les jeunes puissent vivre de cet amour nouveau. Donc ils en restent à un niveau humain. Ils ont une vision beaucoup trop humaine de l'amour. Donc nous voudrions montrer le chemin d'un amour nouveau dans l'éducation. Mais avant de montrer ce chemin, je voudrais insister sur le fait que nous vivons dans un temps qui est un temps de combat spirituel. À vrai dire, l'éducation se fait toujours dans un certain combat, puisque la nature humaine reste marquée par les conséquences du péché originel. Mais les temps que nous vivons sont des temps où l'homme est sous une tentation particulière que Jean-Paul II, dans son voyage en France la première fois, avait appelé la métatentation. Pour dire que c'était une tentation qui dépassait toutes les tentations que l'humanité avait connues jusqu'ici dans son histoire. C'était en 1980. Il a d'ailleurs dit que c'est en France qu'il avait laissé l'essentiel de son message. Or, Jean-Paul II, quand il parlait de métatentation, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que dans le cœur et la conscience de l'homme moderne, il y a une opposition entre l'humanité de l'homme et Dieu, au sens où, quelque part, Dieu est perçu comme un danger pour l'épanouissement de l'homme. Et c'est au-delà de la question de l'athéisme, la question du rapport que nous avons à un Dieu qui, comme dit l'Écriture, sera tout en tous. Maintenant, je vais vous poser la question que Jean-Paul II pose dans son discours, juste après sa tentative d'assassinat, le premier discours qu'il a fait. Quand il est sorti de l'hôpital, c'était au sanctuaire de l'amour miséricordieux. Il a posé la question, laissez-la retentir dans votre cœur cette question. Si Dieu est tout en tous, que restera-t-il pour moi en tant qu'homme? Peur de l'aliénation. Peur d'un Dieu qui absorbe l'humain. Peur d'un Dieu qui oppresse l'homme. Peur d'un Dieu qui empêche l'homme de vivre sa vie d'homme. Et la conséquence directe de cette méta-tentation qui est le plus souvent inconsciente, c'est-à-dire on baigne dans cette atmosphère, qui fait que le religieux est suspecté, hein, comme quelque chose de dangereux. La conséquence, c'est les vies parallèles. C'est-à-dire, il y a la vie humaine avec laquelle on cherche à se réaliser en tant qu'homme, par le travail, par les relations affectives, la vie relationnelle. Et puis, il y a la vie religieuse. Alors, éventuellement, on peut enrober sa vie humaine de quelques, références religieuses, mais on ne laisse pas vraiment Dieu pénétrer dans la profondeur de notre vie humaine. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement conscient, mais c'est quelque chose de très profond en nous, cette peur de Dieu. À vrai dire, la peur de Dieu, on la voit dans le récit de la Genèse, hein, comme la première conséquence du péché originel. Mais comme avait dit Maurice Clavel, un journaliste converti, il disait que le péché de l'homme moderne, c'est le péché originel au carré. Nous sommes tous dans cette mentalité, hein, qui fait que Dieu est tenu à distance. Il est en réalité hors jeu, demeure lointain et abstrait. L'homme cherche à se réaliser lui-même en réalité en dehors de Dieu. Même s'il continue à affirmer que Dieu est premier, que Dieu est l'absolu, au fond de son cœur, c'est une difficulté radicale à se livrer entièrement à l'amour divin. Il y a eu des temps où, sans se livrer à Dieu, malgré tout, beaucoup de chrétiens menaient une vie à peu près droite selon les valeurs chrétiennes. Mais maintenant, c'est un fait que on voit bien que ceux qui restent dans cette distance vis-à-vis de Dieu intérieur n'échappent plus au courant du fleuve. C'est-à-dire, il y a un vernis culturel chrétien qui ne tient plus la route. On a encore des parents qui viennent apporter leur enfant au catéchisme en disant, écoutez, transmettez-leur les valeurs chrétiennes, mais ils le disent plus ou moins pas trop de Dieu, quoi. Oui, mais le problème, c'est que ça ne marche plus. Je me souviens, j'étais au collège jésuite à Saint-Louis-de-Gonzague. J'ai fait une grande partie de mes études. Il y avait un vieux père jésuite, mais c'était avant que j'arrive, qui, à la fin d'une distribution des prix, dans le début des années 60, avait dit « Ce collège, c'est un beau bloc de marbre. Il n'y a pas une faille par où laisser passer la grâce. » Voyez, ça, c'est l'humanisme chrétien sans Dieu. Et bien maintenant, il y a plein de failles. Il y a plein de failles. Et ça nous oblige à aller jusqu'à la racine de la vie chrétienne, c'est-à-dire à refonder les choses dans le Christ. Alors, ça oblige aussi à aller radicalement à contre-courant de la tentation de l'homme moderne, enfin de la mentalité moderne. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout d'une réconciliation avec Dieu. D'aller jusqu'au bout d'une ouverture de notre cœur à Dieu. Et pour dire les choses en un mot clé, d'aller jusqu'au bout de notre abandon à Dieu. Parce que finalement, ce qui est abîmé, c'est la capacité de nous abandonner à Dieu. C'est ça que l'homme moderne ne peut et intérieurement ne veut pas faire. Écoutez la réponse que le Concile Vatican II, conscient de cette tentation de l'homme moderne, écoutez la réponse qu'il a donnée. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. La dignité de l'homme, c'est pas de se passer de Dieu. C'est pas de pouvoir se réaliser lui-même, par lui-même, sans dépendre de Dieu, dans une liberté qu'il pourrait affirmer ainsi, mais sa dignité la plus haute, c'est de pouvoir communier à Dieu. Si l'homme existe et que Dieu l'a créé par amour, et par amour ne cesse de donner l'être, l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Autrement dit, l'homme se trouve lui-même en tant qu'homme, se réalise lui-même dans son humanité, que s'il accepte de redevenir comme un petit enfant devant Dieu. Je me souviens, j'avais voulu choisir un texte qui parlait de la nécessité de redevenir comme un petit enfant. Mais il y a une personne qui s'était opposée, pour une messe, hein, puis il y a une personne qui s'est assez âgée, qui s'était opposée en disant non, on va prendre autre chose qui soit un peu plus viril. Vous voyez, cette idée que redevenir comme des tout petits, mais quoi, on n'est plus des petits, dépendre de Dieu, mais enfin, bon. Vous voyez, cette opposition latente qu'il y a entre notre liberté, notre humanité, notre dignité, et puis la dépendance à Dieu. Et l'Église, l'Évangile nous dit que l'homme se trouve lui-même, et il devient vraiment libre qu'en se perdant en Dieu, en acceptant de se lâcher, de se perdre, de s'abandonner totalement. Ça, c'est le grand mystère de notre vie, hein. Celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Et donc en réalité, la vraie réussite de notre vie, on est à milieu de la mentalité moderne. La vraie réussite de notre vie, c'est notre abandon à Dieu. Saint François de Sales dit que les degrés de la vie spirituelle, de progrès dans la vie, c'est les degrés de l'abandon. Pour beaucoup d'entre nous, on peut éventuellement l'admettre intellectuellement en se disant « Oui, c'est vrai, notre identité la plus profonde, c'est d'être enfant de Dieu. » Et un enfant, il s'abandonne. Il aime en s'abandonnant. Il aime son père dans une relation d'abandon. Mais le vivre dans son cœur, c'est un sacré chemin. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des résistances terribles depuis le péché originel. Et vous rajoutez la couche de la modernité. C'est pas pour rien que la dernière docteure de l'Église, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a terminé sa vie en disant qu'elle n'avait plus qu'une seule boussole, l'abandon. Tel est le culte spirituel que les parents doivent enseigner ensemble à leurs enfants, puisque l'éducation doit viser principalement, comme dit le Concile, à ce que les baptisés apprennent à adorer Dieu le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans un abandon filial. En réalité, là est la vraie vie, la vraie joie, la vraie paix. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi. La vraie liberté aussi, parce que l'homme est pleinement lui-même dans cet abandon. En fait, notre cœur, c'est un cœur d'enfant. Il ne vit que dans la relation à Dieu le Père. Il ne vit vraiment que s'il est tourné vers le Père. Et l'homme, il n'est vraiment lui-même que s'il vit avec son cœur. Si nous voulons avoir un cœur fort, un cœur qui soit vraiment la source de nos actions, si nous voulons tout vivre avec le cœur, il faut tout vivre dans cet esprit d'abandon. À l'intérieur de cette vie d'abandon. Une autre manière de dire les choses, c'est que l'homme ne peut suivre jusqu'au bout un chemin d'intériorité, il ne peut descendre en lui-même et se trouver lui-même dans ce qu'il a de plus intime, qu'en acceptant d'avancer sur ce chemin d'obéissance confiante à son Père du ciel. Ça, c'est donc le vrai trésor. C'est le vrai sens de la vie. Et c'est ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Cette vie d'abandon confiante qui nous fait reposer en Dieu. Et à partir de là, tout vivre dans une joie intime, une paix que le monde ne connaît pas, qui qui est celle d'un cœur qui repose sur le cœur de Dieu. Jean, je vous le disais au début, il y a la formation du cœur, c'est la formation de la foi, de l'espérance et de l'amour. Pour parvenir à l'amour véritable, pour parvenir à cette vie d'amour comme vie d'abandon en Dieu, nous devons passer par la foi et l'espérance. La foi, c'est l'adhésion à Dieu qui se révèle, l'ouverture du cœur et de l'esprit à Dieu qui révèle. Entre la foi et l'amour, il y a l'espérance. J'insiste sur l'espérance. Former à l'amour, c'est former à l'espérance aussi. Qu'est-ce que c'est l'espérance? C'est le désir du royaume de Dieu. C'est le désir de cette communion avec Dieu, de cette vie d'union à Dieu, comme notre vrai bonheur. Et plus on désire, plus Dieu donne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc en fait, l'amour véritable en nous, cet amour-abandon, ce vrai don de nous-mêmes à Dieu, et par là même aux autres, est proportionné à l'espérance. Éduquer l'enfant à l'amour, c'est l'éveiller à désirer l'amour véritable, à désirer cette relation d'amour avec son Père du ciel, à désirer aimer Dieu, à trouver sa joie dans cette relation d'amour avec Dieu. L'espérance, elle a quelque chose de particulier, disons que plus que toute autre chose, l'espérance, comme disent les théologiens, est autodiffusive. C'est-à-dire, j'entraîne l'autre dans la direction où je marche. Constamment, on s'influence, on interagit les uns sur les autres, mais la plus grande interaction, c'est au niveau de l'espérance. Un enfant qui vit avec des parents qui regardent vraiment vers le ciel, qui est au-dedans de nous, qui regardent vraiment vers le royaume de Dieu, qui est au-dedans de nous, hein, qui désire vraiment la vie éternelle, est un enfant qui, spontanément, naturellement, regarde dans la même direction. Il désire, il recherche ce que ses parents recherchent. Il est entraîné. La difficulté, c'est que nous pouvons nous leurrer nous-mêmes. C'est-à-dire, on peut être pleinement convaincu de ce que je dis là, sans vraiment arriver à tourner profondément notre cœur vers cette réalité-là. Si bien que la première question que Jésus pose à ses disciples dans l'évangile de Saint Jean, lors de la première rencontre, c'est « Que cherchez-vous » C'est-à-dire, « Où mets-tu ton bonheur ?»« Où est ton trésor ?» Je dis « Beaucoup se font illusion et prennent leurs belles pensées d'un moment » pour les vrais désirs de leur cœur. Et un signe pour moi, un signe de vérification, c'est le rapport à la réussite professionnelle et le rapport à la réussite scolaire.
J'entends beaucoup de personnes qui souffrent de cela et... T'entends ? J'entends donc beaucoup de personnes souffrent de cet enfermement dans la réussite, mais il est vrai que dans notre société, on est très emmené par les critères de l'excellence, de réussite professionnelle, de réussite scolaire, et malgré eux, les personnes se trouvent enfermées dans cela. Et on voit des familles complètement refermées sur elles-mêmes, les parents soutiennent les enfants soutiennent les parents, dans une course comme ça à la réussite. Et ça peut être aussi, en fin de compte, assez destructeur. Et les personnes souffrent beaucoup d'être, en fin de compte, sans cesse évaluées. C'est quelque chose qui pèse beaucoup actuellement. C'est quelque chose qui stresse énormément les personnes. Et on voit se développer, c'est pas pour rien, tout ce qui concerne la souffrance au travail. Donc là, il y a un vrai problème aujourd'hui, sur cette course effrénée.
Je pense qu'il y a aussi la foi que... ce travail avec de la communion avec Dieu, quand Louis disait tout à l'heure qui perd sa vie la gagne, on peut se dire ou alors il faut tout laisser et puis se préoccuper que de l'union à Dieu. Mais en fait, le travail que l'on fait avec l'union à Dieu remet, permet l'épanouissement. C'est dans l'autre sens. Et pour cette pression par rapport à la scolarité, nous on a vécu ça avec un de nos fils qui arrivait en première S, nous a dit ben voilà, je voudrais être mécanicien automobile. Et je veux retourner faire un CAP. Alors après des combats dans tous les sens, la famille qui disait non, ça va pas, vous n'allez pas mettre votre fils en CAP après une première S. Et lui, il n'a pas cédé, notre fils. Et nous, on a accepté qu'il aille en CAP en tremblant un peu quand même. Et en fait, il s'est hyper épanoui. Puis en plus, il voulait nous prouver. Donc, comme il était passionné quand même, c'était un enfant passionné de mécanique, et il a voulu nous prouver aussi. Et en fait, il a fait CAP, DEP, bac professionnel, BTS, et il a continué. Et maintenant, avec 15 ans de recul, il est en train d'acheter une entreprise et ça marche très très bien. Mais il s'est vraiment épanoui dans ce chemin-là. Mais pour nous, ça a été vraiment un combat parce qu'on voyait que... On le voyait bien qu'il avait un talent pour la mécanique. Hein, il bidouillait tout le temps et puis c'était pas un truc en l'air comme ça. Mais ça a été un combat, même dans notre famille, avec mon beau-père, parce que c'était difficile de faire accepter ça.
C'est vraiment sur le plan matériel, mais on est quand même dans un environnement où on a une vision que de l'intelligence intellectuelle. Et l'intelligence n'est pas qu'intellectuelle. Et donc, la seule chose que je dis, c'est regardez, on a eu d'autres enfants qui ont montré une intelligence pratique remarquable et qui se débrouillent bien parce qu'on les a laissés aller sur cette voie-là. Donc, se poser cette question-là, ça peut être important et éviter des blocages ou des batailles inutiles.
Et simultanément, ce garçon-là priait beaucoup. Et donc, son discernement, il ne l'avait pas fait non plus n'importe comment. Mais nous, il fallait qu'on y croie aussi. On a bien senti pendant. On a eu vraiment un combat où on se disait, mais on peut le casser, quoi. Et donc, là aussi, on a fait un acte de foi.
Jésus a fait une promesse, hein. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste sera donné par surcroît. C'est-à-dire, les choses s'ordonnent, s'ajustent, se vivent d'une manière, juste et sage, dans la mesure où on met en premier ce qui est premier. Pas fonctionner par opposition, comme l'a bien souligné Anne-Claire, mais il faut se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul but véritable, communion à Dieu dans l'abandon, et que la réussite de notre vie dépend fondamentalement de la mesure où on aura su rester dans l'axe.
Oui, ce qui est concrètement pas toujours facile, parce que vous pouvez avoir deux voies qui en elles-mêmes ne s'opposent pas, à rester dans l'esprit du Seigneur. Quand je vous parle de ce qu'on a fait avec ce fils, qu'il aille vers une voie technique ou vers une voie plus intellectuelle, je veux dire, en soi, voilà, donc après, et c'est pas parce qu'il priait que ce qu'il voulait était... Enfin, vous voyez, c'est pas si simple que ça, mais après, c'est la question de savoir quel est son appel et finalement comment il devient le mieux soi-même dans le regard du Seigneur.
Le fait de mettre son espérance, de mettre son bonheur dans cette réalité cachée qui est en moi, parce que cette vie de communion à Dieu est dans mon cœur, personne ne pourra me l'enlever. C'est pas les épreuves, les échecs qui peuvent m'empêcher de vivre cet abandon à Dieu, au contraire, ce sont des occasions d'aller plus loin. Ça donne une encre à notre existence. On sait à chaque instant vraiment pourquoi on vit. Notre raison d'exister, elle est là dans un lieu que sur lequel les autres n'ont pas prise. Personne ne pourra me séparer de l'amour du Christ, dit saint Paul. Et ça, c'est une très grande force, c'est-à-dire la personne, elle peut avoir un accident de voiture, se retrouver en chaise roulante jusqu'à la fin de ses jours, elle peut perdre son travail, elle peut perdre son conjoint. Elle sait pourquoi elle vit. Et donc, elle peut rebondir. Et puisque Dieu fait tout concourir à la réalisation de ce vrai but, eh bien, il y a toujours moyen, donc, si on garde l'espérance, il y a toujours moyen de profiter, on peut profiter de tout pour se rapprocher de Dieu. Quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un d'insubmersible. Quelqu'un qui se laisse guider par un espoir humain, eh bien, l'espoir humain, il trompe. Il y a un moment où on bute, et puis à ce moment-là, il ne reste plus rien. De voir des gens se suicider parce qu'ils ont perdu leur travail, de voir des gens se suicider parce qu'ils ont perdu leur conjoint, c'est la conséquence d'une société qui désespère, qui n'a plus l'espérance de ce qui est la vraie réussite de la vie. Encore il y a quelques jours, je voyais une personne malade sur le territoire de la paroisse, cancer, me disant, ben voilà, je prends conscience maintenant que j'ai passé toute ma vie à côté de l'essentiel, j'ai vécu pour mon ego, et pourtant Dieu m'avait fait des signes, mais j'ai pas entendu, et il faut que j'en arrive là, phase terminale, pour comprendre le vrai sens de la vie. Que de fois à l'hôpital, je l'ai vu, mais de la part de catholiques. Hein. Est-ce que je vous ai cité plusieurs fois Saint Jean Chrysostome s'adressant aux anxieux chiens. Il commence en fait son discours sur l'éducation en disant, regardez l'état de notre société. Qu'est-ce qui fait des ravages? La vaine gloire, il dit. La vaine gloire. Et il décrit tous les ravages provoqués par la vaine gloire, les gens qui se retrouvent ruinés parce qu'ils ont voulu briller, qui vivent follement. Et alors, il dit, mais personne, pourquoi on en arrive là? Pourquoi on arrive à ce que la vaine gloire triomphe comme ça? Mais parce que les enfants ne sont pas éduqués. Il dit, alors, écoutez-le, personne ne se préoccupe de l'avenir de ses enfants. De ce que personne ne leur parle de virginité. Personne de la modération des désirs. Personne du mépris des richesses et de la gloire. Personne de ces enseignements que l'on trouve dans l'Écriture. Lorsque dès le premier âge, les enfants manquent de maître, que deviendront-ils? Je ne cesse de vous exhorter, de vous prier, de vous supplier, afin que vous fassiez de bonheur l'éducation de vos enfants. Élève un athlète pour le Christ. Je ne te dis pas, détourne-le du mariage, envoie-le dans la solitude, prépare-le à une vie de moine. Non, je ne te dis pas cela. Élève un athlète pour le Christ. Et apprends-lui à avoir, tout en restant dans le monde, la crainte de Dieu dès son jeune âge. C'est quoi un athlète pour le Christ? C'est quelqu'un qui court librement vers le vrai but. C'est quelqu'un qui sait pratiquer le renoncement. Les athlètes, comme dit Saint Paul, hein, pour gagner la course, ils sont prêts à se contraindre à des exercices, toute une discipline, ils sont prêts à se faire souffrir même énormément pour une couronne de laurier. Et nous, on ne serait pas prêts à renoncer à la vanité du monde pour courir vers ce qui est l'unique gloire qui ne passera pas. Il dit à un moment, Saint Jean Chrysostome, mais j'en reparlerai la prochaine fois. Il a trois expressions, mais je vais attendre. Je vais citer Isaïe. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes ne font que chanceler. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Voilà ce que fait l'espérance. L'espérance, elle va de pair donc avec un détachement de ce qui n'est pas le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus, dans son enseignement, nous dit bien, si quelqu'un veut me suivre dans son chemin vers le royaume, qu'il nous indique qu'il renonce à tous ses biens. Ce chemin de détachement dans l'éducation, prendre conscience que tout ce qui n'est pas Dieu est relatif à Dieu, de ne pas mettre son cœur dans ce qui passe, mais dans les réalités invisibles. Ce détachement suppose un certain style de vie, qu'on peut appeler sobriété. Je n'ose pas reprendre le terme utilisé par Jean-Paul II, mais je vous le cite quand même. « Les parents, bien qu'affrontés aux difficultés souvent plus grandes aujourd'hui, les parents doivent avec confiance et courage former leurs enfants au sens des valeurs essentielles. Qu'une seule valeur essentielle, en définitive, c'est Dieu lui-même. Hein. Les enfants doivent grandir dans une juste liberté devant les biens matériels. On a parlé des études, on a parlé de la réussite professionnelle. Ils doivent grandir dans une juste liberté devant les biens matériels en adoptant un style de vie simple et austère. Vous voyez là. Mais il faut quelquefois des mots qui choquent. Hein. Alors, on va mettre à la place de austère, on va mettre sobre. Hein. Mais alors là, on est en opposition complète avec la mentalité de notre monde. Mais comprenez bien que le cœur, pour qu'il puisse vraiment se tourner, rester fixé vers les réalités intérieures, les réalités invisibles, vers ce qui est caché, s'il n'y a pas un minimum d'ascèse, forme un athlète pour le Christ. S'il n'y a pas un minimum de renoncement concret, s'il n'y a pas un détachement effectif par rapport à une recherche de jouissance immédiate, la vie de prière ne risque de pas suffire. De toute façon, c'est un fait que toujours la vie de prière dans la tradition de l'Église a été associée au jeûne. Quand je dis le jeûne au sens très large. Hein, une certaine mortification des passions de la chair, comme on dit, de telle manière que, de fait, la personne puisse libérer, se désencombrer, libérer de l'espace pour Dieu. Plus on est pauvre de cœur et plus on peut désirer le vrai bien. Bienheureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alors,
un truc. Ouais. Je voulais dire que l'austérité, c'est pas la tristesse. Parce qu'on peut vivre d'une façon austère par rapport au monde actuel, parce que le monde actuel est une telle profusion de choses, mais on peut vivre dans une austérité et dans la joie et dans la bonne humeur. Et bon, dans une famille, on peut très bien renoncer. Moi, je vous donne un petit exemple, mais quand nos enfants étaient jeunes, moi, je n'achetais jamais de jus de fruits ou de Coca-Cola ou de machin parce que les chariots étaient trop pleins au supermarché. J'avais pas la place pour mettre le superflu. Donc, il n'y avait pas la place de le mettre. Et ça tombait bien. Ça tombait bien parce que quand on voulait faire plaisir, c'était facile. Il suffisait d'acheter deux bouteilles de Coca-Cola et on avait des hurlements de joie. Et ça nous frappait énormément de voir que des enfants qu'on invitait à la maison, on ne savait pas comment leur faire plaisir. Tellement ils étaient gâtés à la maison. Donc l'austérité peut s'accompagner de beaucoup de joie et de beaucoup de possibilités de faire des fêtes. Alors que si c'est la fête permanente, ça va plus, quoi.
Saint Jean de la Croix explique qu'on jouit beaucoup plus des réalités quand on en est détaché. Ça augmente la joie. Alors que l'attachement est comme un lacet pour le cœur et fait qu'on est loin de posséder réellement les choses, on est plutôt possédé par elles. Je repense, moi, un exemple très concret. J'ai un ami d'enfance, sa femme a eu un accident de voiture. Elle est paralysée de la colonne vertébrale, elle peut à peine, ses deux mains, elle peut à peine s'en servir pour manger. Elle est en chaise roulante permanente. Femme de 40 ans, superbe. Lui, le jeune couple, vraiment. Tout pour eux. Du jour au lendemain, 3 mois dans le coma, la vie qui bascule complètement. Quand je suis allé voir son épouse à l'hôpital pour la première fois, j'ai été moi-même saisi de voir l'état physique dans lequel elle est, et le changement, tout ça. Et en même temps, j'ai été frappé de voir son visage, de fait, et le chemin intérieur qu'elle avait fait, d'abandon à Dieu. Quand j'ai vu son mari à la porte, je lui ai dit, j'ai posé une question un peu, savoir. Il m'a dit, il s'est pas du tout plaint de quoi que ce soit. Il m'a dit, j'ai regardé une photo d'elle ce matin, c'était la photo d'une journée de notre mariage, et je me suis dit, mais comme elle est beaucoup plus belle maintenant. Et le couple tient. Vous voyez la force que donne le fait de regarder vers ce qui est invisible, les réalités invisibles, mais qui sont éternelles, et de ne pas en rester selon les schémas et les modèles du monde. Ça, c'est l'espérance en acte. Ceux qui espèrent le Seigneur déploient leurs ailes comme des aigles. Donc je dis, transmettre cette espérance à un enfant, c'est l'armée pour la vie. En faire un athlète, un soldat du Christ, prêt à affronter toutes les difficultés. Il faudrait cultiver un non-conformisme. On y reviendra cet après-midi, en fin d'après-midi, en parlant de la sagesse. La pureté de l'amour dépend de l'espérance. L'espérance qui purifie l'amour, c'est l'espérance qui nous ouvre effectivement au don d'un amour nouveau. Dieu donne pour autant qu'on le désire. Il te donne son amour pour autant qu'on le désire. Je dirais, l'éducation à l'amour, c'est entraîner les enfants sur ce chemin de l'espérance et en même temps, évidemment, leur témoigner de cet amour nouveau en les aimant en Dieu et pas simplement d'un amour humain affectif, toujours plus ou moins possessif. Je dis, les enfants ont besoin d'une tendresse purifiée. Ils ont besoin que les parents les aiment, non pas pour être aimés d'eux, mais pour qu'ils aiment Dieu, pour qu'ils trouvent leur bonheur non pas dans la vie familiale, mais qu'ils trouvent leur bonheur en Dieu lui-même. Donc ils se situent comme des serviteurs de l'amour divin, ne cherchant pas à lier, comme dit Benoît XVI, à lier l'autre à son petit moi. Et c'est ici que je dis attention à l'esprit de possession et aux attentes que l'on peut avoir sur l'enfant en fonction de nos ambitions. On se projette si facilement sur ses enfants.
Ouais, il faut faire attention à ce qu'on peut projeter sur ses enfants parce qu'on a tous envie de réparer, on a tous envie de les emmener là où on pense que c'est bien, et c'est pas toujours facile psychologiquement de faire la part des choses. Donc c'est important déjà peut-être de se poser la question pour soi, qu'est-ce que moi-même d'ailleurs j'ai pu accomplir qui n'était pas de mon vrai désir ou qui n'était pas de la volonté de Dieu, mais qui était plus en réponse à l'attente que pouvaient avoir mes propres parents. Et ça peut déjà aider à prendre conscience de ce que l'on peut projeter sur ses propres enfants. Parce que l'air de rien, on peut les enfermer sans le vouloir. Parce que les enfants sont fragiles à certains moments donnés, ils peuvent manquer de confiance en eux, et pour se faire aimer, inconsciemment, ils sont prêts à répondre aux désirs de leurs parents ou à l'un de ses parents, pour peu que ce parent manque de reconnaissance vis-à-vis de lui.
On y fait ça si facilement à vouloir prouver quelque chose, à tout prix, en raison d'une attente. Ça peut être une attente des parents ou en raison aussi d'un certain complexe d'infériorité en fonction de jugements portés sur nous. Qui fait qu'on va vouloir montrer que. C'est là, vous voyez, l'importance de l'espérance dans le cœur de l'enfant, l'importance de l'espérance dans le cœur des parents. Et je dirais aussi ce qui peut purifier, voyez, se modeler l'autre selon nos vues, comme dirait la petite Thérèse, nos conceptions personnelles et nos ambitions personnelles, c'est l'adoration qui fait qu'on se met en serviteur de Dieu et que l'on est là, je dirais, pour servir l'accomplissement du dessein de Dieu, comme je l'ai dit ce matin, sur l'enfant. Il y a la vaine gloire qui est un poison terrible et qui peut contaminer l'enfant, hein, si les parents sont dans cette recherche de réussite selon les critères du monde. Ils entraînent leur enfant dans ce sens-là. Mais il y a aussi un autre danger très grand, c'est ce que Benoît XVI appelle l'idolâtrie de l'amour possessif. C'est-à-dire, c'est pas simplement d'avoir un amour contaminé par un certain esprit de possession, c'est qu'on met son cœur là-dedans. Le problème n'est pas tant de l'attachement que de l'attachement à l'attachement. Ah, si je me fais bien comprendre. Voyez. Mais actuellement, beaucoup, faute de connaître vraiment ce qu'est l'amour véritable dans l'abandon à Dieu, beaucoup se focalisent sur l'affectif et font de la relation affective, en fait, leur idole. C'est le règne de l'affectivité. Et à partir du moment où l'enfant, lui, tombe dans se laisse prendre par cette jouissance de l'amour possessif, eh bien, il risque de reproduire ça ensuite.
Mais je ne sais pas si l'enfant a le choix tellement, en fait, parce que s'il y a une relation possessive, s'il y a une relation fusionnelle, si un père ou une mère considère que c'est son enfant qui donne du sens à sa vie, ben le petit enfant, il va prendre ça sur ses épaules sans trop choisir.
Oui, à un niveau humain, il y a un engrenage qui est fatal. Maintenant, si l'enfant découvre l'adoration de Dieu et met Dieu au-dessus de ses parents, quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à père, mère, femme, enfant, il aura trouvé un chemin de liberté. Mais à la base, il est sacrément claqué au sol, si je puis dire. Ça, c'est directement contraire à l'espérance. De mettre son cœur dans l'amour humain, au lieu de le mettre dans l'amour divin. Les parents doivent s'appliquer à aimer leurs enfants de telle manière qu'ils ne s'attachent pas à eux. La meilleure manière, c'est de ne pas s'attacher soi-même à l'enfant. De cet attachement trop humain, je veux dire. Mais de servir Dieu, et le dessein de Dieu et l'amour de Dieu, non pas l'aimer pour être aimé, mais l'aimer pour que Dieu l'aime. Donner Dieu à l'autre et l'autre à Dieu. C'est là qu'est le vrai renoncement à soi, dans la relation.